Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.
Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.
Donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, dans une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à une présentation générale du premier livre de Benoît Boïbunel, Symptômes contemporains du capitalisme spectaculaire, sous-titré Actualité inactuelle, paru aux éditions L'Harmattan en 2019. Et pour parler de manière générale de cet ouvrage, que nous invitons vivement nos auditeurs et nos auditrices à lire, nous sommes en compagnie de l'auteur. Donc bonjour Benoît.
Bonjour.
Alors, donc c'est un ouvrage qui est un recueil de textes que tu as écrit et retravaillé de nombreuses fois ces dernières années. Donc il y a trois parties. Donc le premier chapitre qui s'appelle Le spectacle comme distanciation. Alors je recommande pour ma part particulièrement le premier article, Le désir triangulaire à la publicité, où tu appliques de manière assez intéressante, disons, la théorie de René Girard sur le désir triangulaire à la publicité. Et je trouve que là-dessus, c'est un apport quand même assez original. Et puis, bon, bah voilà, tout le reste de cet ouvrage, dans le chapitre 2 et dans le chapitre 3, tu prends un certain nombre d'exemples d'industries culturelles que tu analyses. Alors, tu analyses donc le cinéma états-unien, tu analyses la littérature de masse, tu analyses l'écologie, tu analyses le comique, tu analyses la presse people, tu analyses le football spectacle, tu analyses la télé-réalité, tu analyses Facebook, tu analyses le développement personnel. Et puis, la troisième partie est un peu différente, je dois dire, puisqu'il s'intitule « Propositions et perspectives ». Donc, il y a notamment dedans une critique radicale du travail face au spectacle, une critique des critiques antisémites et tronquées du spectacle, et puis après, un certain nombre d'articles plus philosophiques et moins politique, et puis après tu finis donc sur une perspective stratégique de lutte et d'émancipation. Alors, du coup, voilà, quelle est l'origine un petit peu de ce projet de livre, et comment est-ce que tu l'as conçu ?
Bah, l'idée c'était, moi j'écris depuis quelques temps sur la critique marxienne de la valeur, et je me suis intéressé aussi beaucoup à Lukács, qui est aussi à l'initiative d'un recentrage sur la question du fétichisme chez Marx. Et j'ai également beaucoup réfléchi autour des thèses de Guy Debord, en particulier la société du spectacle. Voilà, c'est des théories critiques vraiment passionnantes et qui vont à la racine de la domination. Mais ce que j'ai voulu simplement faire avec cet ouvrage, c'est concrétiser un petit peu cette critique avec des exemples, tout simplement. Et là, qui sont surtout issus de l'industrie culturelle capitaliste. Et pour donner à voir aussi ce que signifie la réification, ce que signifie le spectacle et ce que peut signifier le fétichisme marchand dans un contexte capitaliste, mais sous un angle vraiment précis ici, donc du coup, sous l'angle de la critique de l'industrie culturelle capitaliste. Il faut déjà préciser quelque chose, c'est que Debord, quand il critique le spectacle, ça n'est pas qu'une sociologie critique des médias. Il y a un contresens dans la lecture de Debord aujourd'hui qui consiste à assimiler le spectacle justement à la critique simplement des médias, de l'industrie culturelle, etc. Donc on pourrait penser qu'effectivement ma démarche, elle reste partielle et tronquée. Mais justement, j'ai essayé d'associer systématiquement cette critique de l'industrie culturelle à aussi une critique des catégories de base du capitalisme que développe aussi Debord, justement. Et donc à une critique du travail, de l'exploitation et à une critique aussi de la valeur et de l'argent et de la marchandise. J'ai essayé de pas avoir cette approche partielle qui consiste simplement à entendre le spectacle justement comme cette accumulation d'images de l'industrie culturelle ou des médias, même si je thématise quand même cette industrie culturelle. L'idée, c'est de faire le pont systématiquement entre ces images empiriques, on va dire, et les catégories de base du capitalisme qui déterminent un rapport social, finalement, dépossédant et aliénant.
Et j'ai l'impression que tu essayes de montrer, notamment dans les deux premiers chapitres, à travers tout un tas d'exemples, c'est comment est-ce que, comme le dit Debord, justement, dans la thèse 4 de la société du spectacle, comment est-ce que le spectacle constitue un rapport social médiatisé par des images. C'est-à-dire que les individus dans la société capitaliste spectaculaire ne vont pas se rapporter les uns aux autres directement à partir de représentations, d'affects qui sont issus de leur propre processus de subjectivation, mais qu'en réalité, ils vont se rapporter les uns aux autres à travers des images qui sont le produit de la société capitaliste spectaculaire via les industries culturelles. Donc, ce qui fait que, par exemple, ce que tu vas expliquer, c'est comment est-ce que, par exemple, le désir des individus va être, notamment dans leur rapport aux objets de consommation, va être médiatisé par la publicité, et que ce qui fait que les individus sont dépossédés de leur désir par la publicité qui va leur imposer d'une certaine manière un désir qui leur est extérieur. Et ensuite, tu prends aussi un certain nombre d'autres exemples où également tu montres comment est-ce que finalement l'industrie culturelle fait écran d'une certaine manière entre l'individu et ses désirs, entre l'individu et les autres individus.
Oui, mais l'idée c'est aussi qu'il ne faut pas faire de ces images la racine même de la domination, mais simplement des symptômes. Et l'idée c'est d'articuler ensemble ces symptômes empiriques avec la base catégorielle de la domination. C'est pour ça que la troisième partie, elle revient vraiment là-dessus, elle vient compléter peut-être les deux premières parties, en développant une critique radicale du travail. Et du coup, ça n'a pas de sens de critiquer simplement ces images. Alors, j'ai dit que Debord, c'était pas simplement une sociologie critique des médias, mais ce qu'il dénonce, c'est aussi, quand même, cette industrie culturelle. Le spectacle, c'est aussi ça. Il y a, un paragraphe où il explique que c'est aussi les images de propagande, etc., qui constituent le spectacle. Donc, ça fait quand même partie de sa critique. Mais ça n'est pas que ça, c'est ça en fait l'idée, ça n'est pas que une critique de ces images. Il faut comprendre ces images comme des symptômes d'un rapport de dépossession plus primordial qui a lieu dans la sphère de la production surtout, et qui est lié à une logique de valorisation.
Oui, ce qui est intéressant justement dans ton livre, c'est que tu expliques bien effectivement que finalement les industries culturelles et leur production font écran entre les individus et leurs désirs, les individus et les autres individus, etc., etc. Ce n'est que d'une certaine manière le reflet, et en même temps ça sert à la reproduction d'un rapport déjà aliénant, le rapport du travail. C'est-à-dire où finalement les individus sont dépossédés de leurs désirs, de leurs affects, de leur rapport aux autres dans le processus de travail, très concrètement. Lorsque on devient caissière, eh bien, on doit réduire ses désirs, ses rapports aux autres, ses affects, ses sentiments, etc., à une fonction, la fonction d'encaissage. Et c'est la même chose dans tous les travaux dans la société capitaliste. C'est-à-dire que finalement, à l'aliénation, qui par Marx est définie comme une dépossession de soi, c'est-à-dire qu'on se dépossède dans une fonction sociale, un rôle social capitaliste. Disons, on met en suspension tous nos désirs, tous nos affects, toute notre relation à l'autre propre, au profit d'un sourire mimétique parce que ça fait partie du travail, de formules convenues parce que ça fait partie des rapports de travail. Et finalement, à toute cette aliénation que constitue le travail, correspond d'une certaine manière l'aliénation dans la consommation et par le spectacle.
Oui, ou même quand on devient professeur ou toute fonction spécialisée de façon générale. Debord, il évoque aussi la prolétarisation du monde, et c'est quelque chose que j'essaye de penser. Et cette prolétarisation, elle a lieu aussi dans la consommation de ces images. Et il y a quand même énormément de pièges dans le fait de critiquer l'industrie culturelle contemporaine. Il y a le piège finalement d'une forme de condescendance qui consisterait à dire que moi, comme auteur, je suis loin de toutes ces aliénations. Et ça, c'est un discours que je refuse totalement. C'est un discours qu'on retrouve aussi très souvent chez des gens qui vont critiquer justement le spectacle, mais du point de vue, par exemple, de la culture élitiste ou française, par exemple, qui serait menacée par ces spectacles. Et c'est pas du tout ma perspective. parce que moi aussi je suis consommateur de ces images, donc je préfère de toute façon dire nous le plus souvent plutôt que de dire les individus. Et surtout, c'est un rapport social qui s'est généralisé.
Et qui nous prend tous finalement, puisque tu parles dans la troisième partie de ton chapitre 1, aussi de la vedette, c'est-à-dire que même finalement les individus dont on a l'impression finalement ils sont au sommet de la pyramide capitaliste, donc les vedettes, les acteurs, lorsqu'elles se montrent en tant que vedettes, c'est-à-dire à peu près tout le temps puisque les paparazzis leur courent après en permanence, elles sont obligées non pas d'agir en tant que des individus qui peuvent manifester leurs désirs, leurs envies, leurs affects de manière libre, mais elles doivent montrer, comme dans leurs films d'ailleurs, c'est là où finalement la distinction entre le film, c'est-à-dire l'industrie, la fiction et la réalité se brouille, notamment avec la logique du spectacle, c'est que ces vedettes elles-mêmes vont devoir être en permanence dans un rôle social, de sourire mimétiquement, d'avoir des désirs, des affects, des manières d'être stéréotypées qui correspondent justement à la manière dont l'industrie culturelle veut qu'elles apparaissent et qu'elles existent. Donc, ce qui est intéressant justement dans ton analyse, c'est que tu n'exclus pas non plus une partie des dominants, disons, et en fait finalement personne n'est vraiment indépendant du spectacle. Tout le monde, et particulièrement même les vedettes, passe par les médiations de l'industrie culturelle pour se rapporter aux autres, à leurs désirs, à leurs affects, etc.
Oui, il ne s'agit pas non plus de plaindre ces individus, et de voir qu'ils cristallisent un rapport social qui est dépossédant. Et il ne s'agit pas non plus de nier le fait que la précarité matérielle est bien sûr le scandale aujourd'hui, mais juste de penser notre rapport à ces images de vedettes comme un rapport qui entretient aussi l'exploitation et des formes de racisme et de patriarcat, d'autant plus que ça va être aussi beaucoup la vedette masculine occidentale blanche qui va représenter à chaque fois la perspective gestionnaire sur le social. Et que du coup, à l'intérieur même de cette sphère, sont reproduits aussi des rapports de domination raciste et patriarcale. Il ne faut pas être non plus caricatural sur ces questions, parce que justement, il existe une critique très réactionnaire de la vedette, et qu'il faut absolument éviter, et que je pense évite Guy Debord quand il propose deux paragraphes là-dessus dans La Société du Spectacle, en disant tout simplement qu'on peut critiquer la vedette en disant qu'elle représente une sorte de vie épanouie dans la société marchande, qui devient un peu une sorte de finalité pour tous les individus exposés à ces images, qui en font à la fois donc un but et quelque chose qui rend plus tolérable leur exploitation.
Oui, bien sûr. Mais justement, ce que je trouve intéressant dans ce que tu développes dans ton ouvrage, et notamment dans ton article « La critique antisémite est tronquée du spectacle », c'est qu'aujourd'hui, il y a effectivement une critique du spectacle qui s'est développée, notamment de manière caricaturale par quelqu'un comme Francis Cousin, qui est réactionnaire. Alors, ce que je trouve intéressant du coup dans ton ouvrage, c'est que à la fois, tu fais une critique du spectacle qui rappelle que c'est un spectacle qui n'est pas seulement aliénant, mais qui est également patriarcal, raciste, validiste, homophobe, etc., etc. Et en plus, tu consacres donc un article justement à une critique des critiques réactionnaires et antisémites du spectacle. Est-ce que tu pourrais développer justement cette partie-là ?
Bah oui, c'est très risqué de critiquer le spectacle sans prendre des précautions. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a le fameux mélange Heidegger-Guy Debord, par exemple, où on va associer ce que Guy Debord, il parle de la vraie vie qu'il oppose presque à la fausse vie de façon un peu binaire. Et derrière, on peut très facilement associer la vraie vie à l'authenticité heideggerienne, par exemple. Et ça existe. C'est pas que des gens d'extrême droite qui le font. Le comité invisible a un petit peu fait, Tikkun aussi. Quelqu'un comme Zach Dansky, et finalement à l'extrême droite, quelqu'un comme Francis Cousin l'a fait. Et du coup là, il y a une logique assez pernicieuse qui va associer la critique du spectacle aussi à la nécessité d'une forme de réenracinement sur une sorte de sol d'habiter, qui peut devenir ensuite identitaire, qui peut devenir réactionnaire, qui peut développer la mythologie du sol, etc. Et ça, c'est très risqué. Et derrière, il y a aussi, le spectre de l'antisémitisme, c'est-à-dire on va associer l'abstraction du spectacle aux juifs de façon assez classique et dire que finalement, par exemple, on pourra dire Hollywood est juif, donc du coup, il y a une conspiration juive derrière le spectacle. Et ça, il faut absolument le dénoncer par précaution, pour ne pas être justement mal interprété quand on critique le spectacle, mais le voir comme un rapport social qui est justement un rapport social raciste et qui est donc aussi un rapport social antisémite. Donc une critique antisémite du spectacle est tout simplement une contradiction dans les termes. Et je l'ai fait dans un contexte précis. Voilà, j'ai vu tous ces auteurs qui mélangeaient Heidegger et Debord, pas simplement à l'extrême droite d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai écrit cet article, pour clarifier les choses. Je pense que la vraie référence pour comprendre Debord, c'est Lukács. D'ailleurs, Debord cite Lukács dans La Société du spectacle sur la question de l'activité contemplative des prolétaires face à la machine. Et du coup, la référence, elle est beaucoup plus du côté de Lukács que de Heidegger. Et là, il y a une confusion qui s'est faite entre voilà la théorie de la réification chez Lukács et la théorie de la réification chez Heidegger, qui a permis à ces auteurs heideggeriens débordiens de produire cette confusion. Je pense que relire Lucien Goldman sur les relations Heidegger-Lukács aujourd'hui, justement, ça va permettre d'éviter cette confusion. Et moi, je tiens ferme sur l'idée que il faut lire Debord en relation avec Lukács. Et bien sûr, par ailleurs, se débarrasser aussi du Lukács stalinien, mais ça, c'est une autre question. Là, je parlais du Lukács de 1923, d'Histoire et conscience de classe.
Ce qui est important, justement, je pense, dans ton ouvrage, c'est finalement, disons, de tirer quand même le meilleur de Debord, c'est-à-dire de relire La Société du spectacle, avant tout à partir de Marx et de Lukács, c'est-à-dire finalement une conception matérialiste du spectacle, et où finalement, qui laisse un peu de côté cette espèce d'opposition qu'on retrouve chez Debord entre la vraie vie et la fausse vie, entre le vrai et le faux. Alors Debord, évidemment, ne dit pas dans La Société du spectacle que le vrai, ce serait la vie normative, hétérosexuelle, blanche, cisgenre, etc., etc. Enfin, et donc, d'une certaine manière, évidemment que on peut pas l'accuser d'être lui-même normatif comme les Francis Cousin. Mais c'est vrai que pour autant, ce que je trouve intéressant dans ton ouvrage, c'est que tu dis d'un autre côté, cette opposition entre le vrai et le faux est aussi, et du coup, entre le concret et l'abstrait, est aussi susceptible, d'une récupération antisémite, raciste, patriarcale. Puisque il suffit de personnifier, dans ce cas-là, le vrai et le faux, pour que ça tombe effectivement dans une critique raciste, antisémite et patriarcale du spectacle.
L'idée, c'est d'éviter la personnification et penser le spectacle aussi comme une forme de domination impersonnelle, ce qu'a essayé de faire Marx en parlant aussi du fétichisme de la marchandise. La notion de spectacle de Guy Debord, elle est issue aussi de cette notion marxienne de fétichisme, qui désigne finalement une domination impersonnelle. Donc il faut à tout prix éviter de personnifier aussi la domination dans ce contexte-là, et donc aussi de personnifier ou de moraliser les intentions, par exemple, des vedettes, qui sont aussi finalement instrumentalisées. Et ça, c'est très important pour pas faire de contresens qui concerne la critique du spectacle. Mais après, effectivement, ça m'a obligé aussi parfois d'être infidèle à Debord ou encore de le compléter, en thématisant beaucoup plus la question du patriarcat, l'homophobie et du racisme de la société marchande. Et ça, c'est peut-être moins présent chez Guy Debord. Mais l'idée, c'est pas d'être dans une fidélité absolue à l'auteur, mais de s'appuyer parfois sur ses thèses pour aussi élargir parfois la perspective. Et finalement, c'est ça aussi l'idée. C'est pas de faire une hagiographie ou de faire une apologie de Debord, mais de penser avec lui, parfois même à côté de lui ou même parfois contre lui, mais en tout cas de s'appuyer sur le côté le plus émancipateur de sa théorie pour penser des phénomènes très contemporains et très actuels.
En fait, finalement, ce qu'arrive à faire ton ouvrage, c'est à la fois de partir du Debord plutôt lukachien et marxien, plutôt que du Debord un peu romantique sur certains aspects, qui fait référence au vrai, qui l'oppose au faux, etc.
Après, il y a un Lukács un peu romantique aussi, passéiste. Mais bon, c'est une autre question.
Oui, effectivement. Enfin, disons, au Lukács d'Histoire et conscience de classe, et en même temps, de réactualiser la théorie émancipatrice. Parce que, d'une certaine manière, le geste de Marx ou de Debord, à leur époque, était de rompre avec la société existante. Mais ils n'avaient pas vu que dans la société existante, eh bien, il n'y avait pas que le capitalisme, mais également le patriarcat, le racisme, l'hétéronormativité, la transphobie, etc. Et on peut finir là-dessus. L'intérêt, justement, de cet ouvrage, c'est que, justement, toi, tu actualises à la fois la théorie critique du spectacle et la pensée émancipatrice, donc à partir et aussi au-delà de Debord, de Marx et de Lukács.
Sans doute, L'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.
Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.